Je travaille toujours depuis 35 ans sur les questions des banlieues. Avec nous, donc, on a deux invités qui sont tous les deux anthropologues et documentaristes.
Je suis littéraire.
Littéraire. Vous êtes effectivement professeur de littérature comparée à l'Université de New York.
Voilà.
Et donc, vous avez créé, entre autres, l'Institute of African and American Affairs et la revue Black Renaissance. Donc, vous avez, entre autres, j'aime bien le titre des documentaires, notamment « Rouge à l'envers », que j'ai pas vu, mais que j'aimerais bien voir. Jean-Paul Colline, vous êtes, vous, effectivement, anthropologue. Vous avez travaillé pas mal sur le Mali et sur un certain nombre de d'autres pays africains. Vous êtes directeur d'études à l'École de hautes études en sciences sociales et directeur du groupe de recherche sur art et images et anthropologie au CNRS. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages et produit une dizaine de documentaires, vous à peu près une trentaine. Donc vous êtes quand même très documentariste. Moi je suis sociologue, les sociologues en général, ils ne font pas d'images. Bizarre, on produit des livres. Qu'est-ce qui fait que les anthropologues... plus particulièrement, produisent des documentaires. On connaît bien les travaux de Rouche, bien sûr, mais pas seulement. Et donc, vous allez nous montrer d'ailleurs des extraits de vos documentaires. Notre débat de ce soir devrait porter normalement sur le thème les formes documentaires. On voit bien qu'il y ait des formes documentaires en lien avec ce qui est l'objet des sciences sociales. À vous.
Bah, écoutez, on pourrait peut-être se demander pourquoi les sociologues et les anthropologues n'utilisent pas plus l'image, parce que une bonne partie des réflexions des anthropologues depuis les années 80 s'est apportée sur la place faite à l'autre dans la relation des anthropologues à leur terrain. Et normalement, quand on fait des films, on voit tout de suite la place qu'on donne à l'autre. Ou bien on lui donne aucune place, ou bien on le regarde, on l'observe et on le commente à son insu, ou bien on lui donne la parole, on interagit avec lui, ou bien on donne à voir différents types de points de vue. Donc la position est claire. Et en même temps, on est un peu comme des chercheurs qui écrivent leurs phrases avec des caméras. Et donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Une phrase, on la bichonne, on la corrige. Un plan, s'il est mal foutu, il est mal foutu pour toujours.
Il n'y a pas chez les anthropologues aussi l'idée que ce qu'ils filment risque de disparaître?
Oui, enfin c'est un peu maintenant
passé.
Parce qu'on a pris conscience que tout change. Hein, on a découvert que les langues secrètes dans des rites d'initiation, etc., étaient en fait du verlan de l'arabe, ou bien que on a mis du temps à découvrir que quand même l'islam était en Afrique de l'Ouest présent depuis plus de 10 siècles, et donc tout ça est en train de changer. Et puis il y a l'invention des traditions, etc. On sait très bien que en 3 générations quelque chose peut être institué en tradition. Et puis nous-mêmes, nous inventons en Occident des tas de traditions. Enfin, il en sort tout le temps. Le point de vue a un peu changé. Le point de vue des conservateurs, disons, a changé, puisque comment conserver des patrimoines mobiles? C'est un peu la question. Alors, on cherche des nouvelles formes. Et là, dans les exemples qu'on a, on voit très bien le film que va vous montrer Mantia. Il est le résultat de la qualité d'une relation humaine entre deux personnes. On voit bien ce qu'il a fait. Un reporter qui viendrait avec une équipe peut pas le faire. C'est une sorte de compagnonnage intellectuel avec Édouard Glissant qui fait qu'il y a un type de relation qui se crée. Et dans le petit exemple que moi je voulais vous montrer, c'est un truc un peu expérimental qu'on a fait avec Arte, qui s'appelle Les Arts du Mythe. C'était coproduit par le musée du Quai Branly, et l'idée était de partir d'un objet et de montrer la variété des points de vue, comment les différents regards créent un autre objet. Et donc la contrainte était assez forte, parce qu'on n'avait pas droit à la règle sacro-sainte du documentaire, qui est la continuité. La continuité devait être rompue, cassée brutalement, puisque l'idée c'est de virevolter sur un autre regard. Et donc, bon, c'est un film qui a 12 minutes, donc c'est assez vite passé. Alors, moi, je suis passé à la moulinette parce que je dirigeais la collection et j'ai proposé à une équipe d'aller sur mon terrain d'anthropologue, mais sans moi. Et donc, ils ont vu tous mes copains, etc. Et puis, le réalisateur, qui est un type très bien, qui s'appelle, Jean-Loïc Portron, il m'a fait jouer un rôle. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais j'ai vite compris quel jeu il me faisait jouer, parce que sur le terrain, il est très proche des gens. Et moi, il s'est mis... à 30 mètres, donc il y avait regard éloigné, j'ai compris après l'intention. Bon, je n'étais pas totalement, c'est pas comme ça que j'aurais souhaité être filmé, mais bon, c'était la règle du jeu, donc il m'a pris comme ça, et c'est la place que je joue dans le film. Donc bon, c'est pour montrer ces espèces de tourniquet de regard qui crée des objets différents.
Ben tiens, avant qu'on passe les films, vous avez quelque chose à dire peut-être?
Ben, oui, c'était quand même... interpellé par ce que disait Jean-Paul Collin, comment faire des films maintenant. Moi, je suis en fait devenu cinéaste. Je suis plutôt littéraire et professeur de cinéma à New York University avec Richard. Et je me suis intéressé au cinéma parce qu'on ne faisait pas des films sur les gens que j'enseignais, comme Saint-Ben Ousmane, comme Jean Rouch, et comme Édouard Glissant, et je voulais faire des films sur ces personnes. Et donc, c'est toute une autre aventure. C'est pourquoi je suis devenu cinéaste, sinon je ne suis pas cinéaste. Maintenant, je me retrouve en train de faire un film sur l'opéra africain. Et donc, c'est pas le documentaire, c'est inventer le documentaire que moi j'ai fait, plutôt. Comment inventer le documentaire?
Une petite question à vous deux avant qu'on passe les petits bouts de documentaire. Vous venez de dire inventer le documentaire. Notre thème général de ces trois jours, c'est recréer le monde. En quoi l'anthropologie, en quoi le documentaire, en quoi les sciences sociales peuvent-elles aider justement à recréer le monde, à le regarder autrement, à le revisiter, à le revivifier, je ne sais pas comment dire, mais il y a plein de mots.
Je pense qu'il le fait le plus souvent qu'on ne croit, parce que bon, même une interview, par exemple, c'est quelque chose comme d'assez performatif, comme disent les linguistes, ça crée sa propre réalité. Peut-être que quand vous me posez une question, peut-être que moi je n'avais pas pensé à la question comme ça. Donc vous me la posez dans vos termes à vous, donc je réponds aussi par rapport à vos termes. Donc on crée quelque chose. Donc une simple interview, et quand on montre des images d'archives à quelqu'un qui a vécu, je ne sais pas, des choses dramatiques il y a 40 ans, on crée quelque chose. La personne se remémore et se souvient d'une manière créative avec des images qui sont des déclencheurs de mémoire et qui créent quelque chose à neuf. Et donc on crée tout le temps. On crée tout le temps, et parfois on croit qu'on fait une collecte, comme on dit, une collecte d'informations. La plupart des collectes d'informations sont créatives et souvent à leur insu, ce qui est parfois dangereux.
Oui, moi j'ai beaucoup pensé au titre parce que j'aime beaucoup ce titre, Recréer le monde, et ça se recoupe beaucoup avec les idées de Glissant. Et si j'essaie de paraphraser Glissant un peu, lui dirait il faut recréer le monde parce que le poème est perdu, le poème s'est enfui dans un gouffre, donc il faut recréer le monde. Et il dit aussi il faut recréer le monde parce que quand il était petit, il entendait le bruit de la forêt, il entendait le bruit des ruisseaux qui passaient, et maintenant il ne les entend plus. Et il faut recréer le monde parce qu'on a les prises uniques maintenant. Donc, comment on peut créer un monde au-delà de cela? Ça, c'était très important pour lui. Il le fait dans le film aussi. Et recréer le monde qui n'est pas le monde de l'épopée ni des tragédies. Parce que ce monde-là restitue la filiation, la légitimité, plus ou moins la rationalité. Et alors que lui, il voulait recréer un monde avec de nouveaux mythes. Et ces nouveaux mythes, l'air sacré, bon, entre un anthropologue et un sociologue, vous allez parler du sacré tout de suite, mais l'air sacré se recherche ailleurs, ce n'est plus dans le vieux sacré. Et donc, recréer le monde avec la pensée du tremblement, qu'il faut trembler avec le monde, il faut réapprendre à trembler avec le monde. Et c'est un peu et avoir le droit à l'opacité plutôt que la transparence. Et donc, j'ai beaucoup aimé le titre. Je me suis dit, il faut simplement prendre des choses, des glissants et puis les répéter ici. Donc, c'est pas original.
Oui, donc, c'est très original. Voilà. Avec le monde, je trouve que c'est une très belle réflexion.
Ça fait un peu peur parfois.
Qui est consacré à recréer le monde.
Si on recrée le monde, c'est qu'on va trembler avec. Donc, parce que sinon, ça ne vaut pas le coup. Ce sera tiède. Il n'y a pas de, ça bouge pas. Donc, on recrée. Donc, il est bien évident que ça veut dire aussi une mise en mouvement de nouveaux mythes, comme vous dites, parce que ça veut dire aussi que les mythes anciens ne sont plus en capacité de nous aider à recréer. C'est un peu ce que dit Guilisson, donc dans ses derniers écrits.
Voilà.
Est-ce que on passe d'abord les petits bouts de documentaire, puis après on vous reprend. Je sais pas, moi je connais rien à la technique, donc je sais pas comment ils vont faire. Ok, d'accord, bon, ça va. Merci.
Une blessure, le passage, il filme, on y reste un roman, tu vois, finalement. Parce qu'ils nous font quoi? Ils nous enchaînent. Ils nous enchaînent, ils nous enchaînent, ils
nous enchaînent, ils nous enchaînent. Mais tant qu'ils nous enchaînent, est-ce qu'ils
agissent? Parce qu'ils nous enchaînent, ils nous enchaînent. T'as dit quoi? Parce qu'il mettra du mais moi je la tête mettra du bon pour quand il s'agit de mettre pour quand il soit là pour ancien un nain mettre pas y être l'un bon non c'est très mais car à bon tabali mais tout si bien que on reconnaît
tu vois tu es shadow
les autres ils sont là.
Au Mali, on appelle boli ces fétiches qu'on utilise dans des cultes secrets, comme celui du kono. Le boli, c'est l'objet. Le kono, c'est la puissance divine qui vient l'habiter. Le montrer est un sacrilège. Cet exemplaire qu'on peut voir au musée du Quai Branly rappelle vaguement un buffle. Mais il existe d'autres formes, très éloignées. Ce qui caractérise les bolis, c'est la matière brunâtre qui les recouvre, du sang coagulé. Les bolis sont nourris par des sacrifices au cours de rituels largement inconnus. On sait pourtant que le kono, cette divinité mystérieuse, apparaît alors sous la forme d'un danseur coiffé d'un masque. Masque, boli, culte, tout se confond dans le nom du dieu, kono.
Bon, on m'a beaucoup m'a tiré ma cama. On boira ni mon son. A fora abana ni mon yermason.
Face à un refus absolu, ceux qui avaient négocié la possibilité d'un film se retrouvent pour éclaircir la situation.
Je suis
très
En 1931, Michel Léris participe à la mission Dakar-Djibouti, dirigée par l'ethnologue Marcel Griol. Léris note jour après jour les péripéties du voyage. On apprend qu'au village de Kémini, Léris et Griol exigent du chef du Kono qu'il leur livre un masque en échange de 10 francs. « Nous partons en toute hâte », écrit Léris, paré d'une auréole de démons ou de salauds particulièrement puissants et osés. Le lendemain, il répète l'opération au village de Diabougou. Léris écrit « Mon cœur bat très fort car depuis le scandale d'hier, je perçois avec plus d'acuité l'énormité de ce que nous commettons. » Il emporte ce qu'il décrit comme une sorte de cochon de lait en nougat brun. Quelques jours plus tard, dans une lettre à sa femme, Léris revient sur son geste. J'ai bien l'impression qu'on tourne dans un cercle vicieux, écrit-il. On pille les nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c'est-à-dire en fin de compte, à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller.
Il suffit d'un seul sacrifice pour ranimer les choses qui sont là-dedans. Nous, on ne dit pas qu'il meurt, mais il dort. Il dort. On peut le réveiller. Quand on a besoin de lui, on peut le réveiller. On peut ressusciter ce truc. Sans mentir, même si c'est 100 ans, on peut le ressusciter.
Mingoro Sanogo est notre interprète. Il est aussi devin et intervient à ce titre dans la fabrication des bolis.
Il y a quelque chose là-dedans qui a été recouvert qu'on ne peut pas voir. Quand ça s'est recouvert, on ne peut plus voir. Mais cette chose agit à l'intérieur. C'est une puissance qui agit. Il y a quelque chose dedans.
Nyangolo Koulibaly, initié du Kono au village de Tionso.
Le vrai but même du Kono, c'est parce que les sorcières étaient là et ne faisaient que tuer seulement les enfants, les sorcières. Alors, comme les sorcières avaient trop de puissance maintenant, on a été prendre le Kono et c'est le Kono qui a anéanti cette puissance. Donc le Kono a fait de sorte que les sorcières n'avaient plus de puissance, donc elles ne pouvaient plus tuer d'enfants dans le village maintenant. Voilà une raison pour laquelle on ne veut même pas qu'une femme voie encore le Kono, parce que les femmes sont des sorcières.
l'antiquaire Johann Lévy a entrepris de radiographier sa collection de boli.
La première couche, c'est celle-ci d'abord, après c'est celle-là. Fin. C'est très très fin. Et on voit justement à l'intérieur le crâne.
Là, on aperçoit le crâne.
Et sur les coupes axiales, effectivement, tu vois bien que c'est un crâne, puisque c'est cette forme-là qui est typiquement osseuse. Donc ça va être un crâne de fœtus qui est posé dessus. Et,
ouais. Et à l'intérieur, il y a quelque chose ?
De petits objets, mais c'est surtout la structure qui a séché du
cerveau, alors.
Du cerveau.
Ouais.
Voilà, c'est du cerveau.
Ouais, c'est du cerveau.
Il n'a pas été vidé.
Ça pourrait être ça.
Ça pourrait être du cul.
Un bâton
du...
comme ça.
Emmanché à l'intérieur.
Emmanché sur le fœtus.
Voilà, embroché, voilà. Voilà.
Ah, voilà. Ça, c'est très intéressant.
Voilà. Là, on a beaucoup d'os dans celui-ci.
Beaucoup de détails, là.
Voilà.
Beaucoup de détails.
Là, on a énormément d'os. Dans la tête, dans la bosse, à l'intérieur du corps. On dirait une nébuleuse.
Le sang, c'est la vie de ces objets. La matière prend le dessus sur la forme. La matière est comme de la lave. Et puis la matière, c'est la vie. C'est du sang. La matière est la matière constituante de ces objets qui sont comme des cosmos. Et d'ailleurs, quand on passe ces objets encore une fois au scanner, selon le réglage de l'image, selon ce qu'on va regarder, c'est comme un cosmos.
Johann Lévy est expert et propriétaire de la galerie Art Primitif.
Donc le scanner là, nous a permis de remonter le temps et de voir, pour les bolis les plus importants, de découvrir la structure interne, le noyau. Donc comment on avait rituellement conçu ces objets. Alors dans celui-ci, qui est unique, qui est le seul qu'on connaisse de ce type, très, très phallique, on a découvert une statuette en bois avec des os humains, des morceaux de phalanges, des morceaux de crâne. Dans ce bovidé, on a découvert 7 cornes de gazelle qui participent à la magie du fétiche.
Très intéressant le jeu. Je pose la question et il va tout de suite droit au but.
Sibiri Malé est le chef du village de Ntarla. Il est accompagné de son adjoint et de son fils.
Hein?
Oh, Nayerwawaye. Bon, ngo penye, ngo shongonye, sika penye, nu penye, Nayerwawena, Mayerwawena, anga, blakurde anga.
Ah, oui.
Même
si toi aussi qui es le propriétaire de ces choses, si tu l'as trahi, ça te tue de...
Bon, pas mal de à peine, mais il n'a pas cela même quoi. Bon, il n'a pas tant vraiment.
Voilà.
Bon, nous, tout est tout bien, moi, sans à dire. Bon, il est allé si folle ou n'a pas payé. Bon, plus que le droit de pied qui se fait, ma yann, mais qui tourne, qui est à quoi. Moi, femme de. Donc, au mot que n'a pas payé ou que le roi se fait, donc, il tourne, j'en même. Bon, cela m'a eu, au père au cœur de la sève, faut qu'un moron. Donc, quel pays il y a au blé, il y en a, quel arna. Bon, au moins, bim, tout le roi, il m'a appelé Baran Belen, mais voilà. Bon, un tiro, on a dit, j'ai appelé, quoi. Ma femme, d'ailleurs, c'est un ami, je ne voyais pas. Pipi, mais pire, il y a la langue, elle donne, je suis au terrain. Bon, madame, madame, vous. Parce que n'est-ce pas. Mar mobile na me xenja na cambie terrain tira me ne pie mais bon na dal da wala hore atam ah donc mais il est jonge
il va la
toro
la va sim va don lande yani demo wano
ne mo
wa reunion a don fala.
Lui il a mordu la terre, lui il a dit qu'il a mordu la terre.
Bamana, le mot fauve, désigne à la fois la sorcière qui tue les enfants et la puissance qui habite le boli. Le fauve combat le fauve.
Omanjo to no man. Wa awo wa hotia. Ya je jo umba o bemadebe.
Konon Tio Dembélé et Karitier Dembélé sont respectivement chef et chef adjoint du Kono de Dembélé.
Je voudrais te dire une chose. Nous sommes ici, nous même sommes pauvres. Nous n'avons pas d'argent pour pouvoir chaque fois payer le nécessaire pour nourrir les fétiches là. Il y a tas de choses à faire.
Il y
a les chèvres, les poulets, ça fait une charge énorme. Alors, si tu es contentant, arrivé chez toi, ne nous oublie pas. Quand la fête va s'approcher, on va t'envoyer un coup de téléphone et puis tu envoies notre aide.
Bon. Est-ce qu'il y en a pas son gros photo là? Parce que après, moi, il y a une photo.
Non, la peine. Mais il y a peine. Photo ça. On va dire qu'il y a peine photo bling en bas. Parce que là, photo mort, il y a peine photo. On a dit chien ou un homme qui est un bas chicher. Un bas chicher. Au moins, Bruno est un de mots.
Moi, il y a peine.
Mais qu'est-ce que tu veux
dire? Même à quoi il y a un mot.
Les vieux disent que c'est pas tellement positif.
Des grondements dans les douches.
Il fait que 12 minutes, mais bon.
Les habitants avaient pour coutume de frapper sentence en ces occasions. C'est la grande baille qui veut découler là encore. Parlant ainsi du volcan, qu'il considérait d'abord comme une montagne épaisse qui verse, et dont il disait à propos de son éruption finale de 1902, il a brûlé sur nos corps seulement tout le côté à gauche. La nuée ardente dévalant au loin sur Saint-Pierre, c'est une histoire bien connue, les avait atteints de ce côté pendant qu'ils fuyaient vers la mer.
Alors c'était là, et ça s'est effondré. Tout s'est effondré. La case. Et quand j'étais enfant, tu entendais le bruit de la rivière, que tu n'entendais plus.
Ça c'était les godards qui étaient là. La nuit à maison, c'est en zone, Madame Malody, les godards. Là, c'est maman, et Pamba.
Mais tout ça tombé?
Oui, tout ça, quoi.
Qui temps, Yvette?
C'est une catastrophe, là. Ça, là, au moins, combien de temps, mon Dieu?
Attention.
Là, au moins de 10 ans, hein, parce que...
10 ans, oui.
Ni c'est quand j'ai tiré moi, un caïman, mais caïman, là, mais caïman, fille, moi. Ça, c'est caïman, maman, moi.
Tu vois, ma naissance s'est enfoncée dans la terre.
Eh oui.
Et l'effondrement, c'est quoi pour toi maintenant là?
Le retour aux profondeurs. Il ne faut pas se dire que l'incertitude, l'incertain, la non-évidence, c'est une faiblesse. Et il faut nous dire que ça nous permet d'entrer dans des complexités que nous ne soupçonnions pas. Et la pensée du tremblement, ce n'est pas la pensée de la crainte, ni la pensée de la peur. C'est la pensée qui s'oppose au système de pensée. Et tous les poètes l'ont dit, le halètement, le souffle, la pulsion, les malheurs, les craintes, les espoirs absolument fous, les entêtements stériles. Il faut reprendre tout ça, ça se brasse. Et cette poétique-là me paraît plus importante que les catégories de la pensée rapide, définitive, fixe, qui tirent des conclusions, etc. Il me semble que nous comprenons mieux le monde si nous tremblons avec lui. Parce que le monde tremble, il tremble dans tous les sens. Il tremble organiquement, il tremble géologiquement, il tremble climatiquement, hélas, nous le savons. Mais il tremble aussi dans les rapports que les peuples ont entre eux. Parce que les rapports des peuples, comme les rapports entre les individus, sont obscurs, difficiles, indémêlables. Le terrorisme, c'est la guerre permanente. Ce n'est plus la guerre où on déclare la guerre, on fait la guerre, on gagne ou on perd la guerre et on signe un traité. C'était ça, la guerre. C'est ça. Le terrorisme, c'est un état permanent. On voit difficilement comment on peut mettre fin à un état de guerre comme le terrorisme en signant un traité avec des terroristes, parce que d'autres terroristes vont prendre le relais. Et la seule manière de combattre cela, c'est de changer l'imaginaire. Non, ce n'est pas de changer l'imaginaire, parce que on peut pas changer l'imaginaire des gens. L'imaginaire appartient à chacun, on ne peut pas le changer. Mais c'est que les imaginaires changent. C'est la seule manière. Sans quoi, on est dans un processus perpétuel de violence, violence idéologique, violence artistique, violence religieuse, violence philosophique, violence technique. C'est-à-dire, chaque fois que la technique va se donner comme objet premier d'attaquer ou de se défendre, et non pas d'améliorer des conditions. Et violence économique, parce que l'une des formes les plus extraordinaires de la violence permanente aujourd'hui, c'est la violence économique. C'est la violence de ce qu'on pourrait appeler le libéralisme capitaliste dans le monde. Ce qui est violent, par exemple, en art, c'est le fait que des artistes...
On aurait pu continuer, malheureusement, il nous reste 5 minutes. À peu près, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Les deux documentaires. Je pense que Edouard Glisson, en 2 minutes ou 3 minutes sur le tremblement du monde, a dit des choses très fortes et essentielles qui rejoignent totalement ce qu'on se dit depuis ce matin. Malheureusement, le temps nous est compté parce qu'on doit libérer la salle. Donc, à vous la parole, chacun, pour une dernière chose à dire, ici en tout cas. Et puis on clôturera en beauté avec vos interventions.
Moi, je trouve que le film de Mantia est très intéressant parce que on voit bien la différence avec une interview banale, disons, qui n'est pas fondée sur une sorte de relation particulière. Et Glisson, il se prête quand même à cette espèce de réflexion à chaud entre deux personnes, ou trois personnes, ou quatre, un maximum, en petit groupe.
Du plein
bon. Oui, du plein aile, quelques amis. Mantia fait toujours des films entre amis. Hein. C'est sa marque de fabrique. Et il a poussé plus loin que Rouche, même l'idée de l'anthropologie partagée. C'est le partage, parce qu'il partage le pouvoir aussi. Rouch, il partageait beaucoup, il laissait venir l'imaginaire des autres, mais il partageait pas le pouvoir. Le pouvoir, c'était pour lui. Et donc ça, c'est assez remarquable. Alors, pour quant au film sur le Boli, malheureusement, on a coupé avant la clé. Et la clé est le rapport homme-femme. Parce que pourquoi ce propos choquant que les femmes sont des sorcières? C'est en fait parce qu'elles détiennent le pouvoir complètement stupéfiant, qui est celui de faire des enfants. Et pas seulement de faire des enfants filles, ça on peut encore comprendre qu'une femme se reproduise, disons, mais elle produit des garçons aussi. Donc là, il y a Kabako. Ça veut dire il y a quelque chose de magique. Et donc c'est pour ça qu'elles savent tout avant les hommes. Et donc elles sont surpuissantes. Et donc les hommes essayent d'épouser le Boli, celui qui est chef de culte, il devient le mari du Boli, pour essayer de contrôler ce pouvoir génésique dans une société qui n'est pas trilinéaire, donc où la transmission se fait par les hommes. Pour dire bref.
Oui, je vais aller rapidement. Je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. C'est que moi, j'ai commencé à travailler. Bon, j'ai toujours connu Glissant comme tout le monde, mais j'ai commencé à travailler sur lui il n'y a pas plus de peut-être 5 ans, quoi. J'ai fait une grande conférence dont est sorti ce film, et Richard Sennett faisait partie même de la conférence. On a fait venir Glissant. Moi, je suis aux États-Unis depuis 73, donc je viens des études noires, Black Studies, ce qu'on appelle Black Studies. Qui, d'une manière, pour pouvoir créer sa place aux États-Unis, s'est basé sur le communautarisme, au communautarianisme, je ne sais pas comment on le dit. Ben voilà. Et donc, ma rencontre. Et ce communautarisme copiait beaucoup le communautarisme des Européens blancs, mais aussi des Africains de l'Afrique. C'est pourquoi on parle de nouveaux mythes. Et Glissant vient avec ses idées de l'identité-relation contre l'identité-racine, l'identité-filiation. Et c'est pourquoi je me suis intéressé à lui. Parce que identité-relation, ça crée toute une nouvelle manière de voir le monde, plutôt que chez nous, bon, tu es un Diawara, ça va jusqu'au XIIIe siècle, on se connaît, et tu es ce que ta famille dit tu es. Et donc, Yéredon, ce qu'on appelle, c'est les anthropologues. Mais Glissant dit non, l'identité, c'est vraiment la relation, c'est pas la filiation. Et il a fait ça en étudiant Faulkner, avec tous les livres de Faulkner, le livre de Glissant qu'on appelle Faulkner Mississippi. Je pense que c'est le meilleur livre sur Faulkner. Donc, c'est ce qui m'intéresse en Glissant. Voilà.
Merci beaucoup pour cette contribution qui clôture en beauté notre journée. Demain, on reprend comme 9h30, hein, c'est ça ? Comme ce matin. L'accueil est à 9h, bien sûr. Et puis, les séances commencent à 9h30. Merci à vous tous. Bonne soirée.